RFI 8h à Paris, 7h en temps universel.
Andréane Mélard.
À la une de votre journal, Alban Le Prince, l'inquiétude des Alaouites syriens.
Plus d'un millier de civils tués depuis jeudi dernier dans l'ouest de la Syrie, les pires violences depuis la chute en décembre de Bachar al-Assad et l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités. Attaque massive de drones sur Moscou ce matin, quelques heures seulement avant le coup d'envoi de pourparlers entre Ukrainiens et Américains en Arabie Saoudite. Comment va se dérouler cette rencontre? Élément de réponse dans ce journal. Nous serons en direct de Londres aussi pour faire un point au lendemain d'une collision en mer du Nord entre un cargo portugais et un pétrolier américain. L'enquête se poursuit et un membre d'équipage est toujours porté disparu. Et puis aujourd'hui, cela fait 5 ans, jour pour jour, que la propagation du Covid a été qualifiée de pandémie par l'OMS. 5 ans plus tard, le coronavirus est toujours là, la planète a appris à vivre avec. C'est votre dossier dans ce journal.
En Syrie, après les pires violences depuis la chute en décembre de Bachar al-Assad, le président syrien par intérim Ahmed al-Sharré annonce la fin de l'opération militaire contre les fidèles de l'ancien régime.
Des affrontements qui ont fait plus de 1500 morts dans l'ouest du pays, dont 1068 civils majoritairement alaouites, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ahmed al-Sharré qui promet une enquête et reconnaît des massacres contre la minorité alaouite qui reste inquiète, Muriel Paradon.
Il nous envoie ce message audio de la province de Latakié. Ce Syrien alaouite, dont nous préférons taire l'identité, dit ne pas faire confiance au président Ahmed al-Sharré, qui, rappelle-t-il, est issu des groupes islamistes radicaux.
Concernant al-Sharré, nous ne lui faisons pas confiance, c'est sûr. Il dit des choses, mais ne les applique pas. Et nous connaissons son passé, tout le monde le connaît. Après toutes ces années et tout ce qu'il a fait, après tout ce que nous endurons aujourd'hui, les alaouites ne lui feront pas confiance pour mener une enquête.
Un autre Syrien alaouite que nous avons joint par téléphone et qui vit aujourd'hui en France a perdu 5 membres de sa famille dans un village non loin de Hama. Pour lui, la défiance va au-delà des nouvelles autorités syriennes.
Les discours de haine envers les alaouites se sont répandus dans tout l'espace public. Par exemple, dans les mosquées, sur des pages Facebook. J'ai reçu un message audio de mosquée disant « Si vous voulez vous venger des alaouites après ces 15 dernières années, c'est le moment de le faire. »
Par peur, beaucoup d'alaouites ont fui leur village du nord-ouest de la Syrie. Plusieurs milliers d'entre eux se sont réfugiés au Liban voisin.
Le pouvoir syrien en quête d'unité, hein, puisque parallèlement à ces massacres, les Kurdes ont laissé éclater leur joie hier. Le président par intérim a annoncé un accord avec les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes pour les intégrer à l'État. C'est une véritable opportunité de construire une nouvelle Syrie, s'est félicité le chef des FDS qui contrôle une vaste partie du nord à l'est. Notez aussi ces frappes israéliennes hier dans la province de Deraa, dans le sud de la Syrie, que Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, veut démilitariser. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, elles ont visé les positions de l'ancienne armée syrienne et notamment un poste d'observation et des chars.
Une délégation a quitté Israël hier après-midi, direction Doha au Qatar.
Pour des négociations indirectes sur la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, alors qu'Israël a débranché l'unique ligne électrique qui fonctionnait encore dans l'enclave palestinienne et qui alimentait la principale usine de dessalement de l'eau. Une coupure condamnée ce matin par le Qatar et l'Arabie Saoudite.
L'Arabie Saoudite qui accueille aujourd'hui des pourparlers entre représentants ukrainiens et américains.
Et pour mettre la pression sur la Russie, Moscou a été visé cette nuit par une attaque massive de drones ukrainiens et qui a fait 1 mort, 3 blessés selon les autorités. Démonstration de force alors que l'Ukraine compte présenter aux Américains un plan pour un cessez-le-feu partiel avec la Russie. Ce sera surtout le premier contact entre Kiev et Washington depuis la visite désastreuse de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Daniel Valo.
Ce sera la première fois depuis la querelle du Bureau Oval que des représentants des deux pays vont officiellement se rencontrer. Côté ukrainien, il y aura notamment Andriy Yermak, le chef de l'administration présidentielle, et les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Côté américain seront présents Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, et Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale. Selon l'agence France-Presse, la délégation ukrainienne va apporter une proposition de trêve avec la Russie dans les airs et en mer, une option de cessez-le-feu qui serait préparée, facile à mettre en place et à surveiller. L'Ukraine espère ainsi convaincre les États-Unis de revenir sur le gel de leur aide militaire, signal encourageant à la veille de la rencontre. Marco Rubio affirmait avoir bon espoir d'avancer sur cette question. Mais au-delà des éventuels résultats concrets de la réunion de Jeddah, l'enjeu sera bien d'effacer autant que possible le souvenir désastreux du 28 février dernier et de réparer la relation très abîmée entre l'Ukraine et son principal allié.
Daniel Valo. Négociation entre Ukrainiens et Américains. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, le président français, reçoit aujourd'hui les responsables militaires de 30 pays de l'Union européenne et de l'OTAN.
Objectif, définir les garanties de sécurité à fournir à Kiev en cas de trêve, renforcer la défense de l'Europe. Des sujets déjà largement abordés la semaine dernière à la télévision par le président français et qui ont beaucoup fait réagir dans la classe politique, Aurélien Devernois.
Sacrifier nos services publics et notre protection sociale sur l'autel de l'augmentation des dépenses militaires, c'est non merci. Ce cri du cœur est signé de l'eurodéputée insoumise Manon Aubry, LFI et la gauche en général, qui voit d'un très mauvais œil les propositions émises depuis quelques jours par l'aile libérale du camp présidentiel. En première ligne, l'ancien ministre de l'économie Antoine Armand, pour qui il n'existe qu'un seul choix, couper dans la dépense publique. Diminution du nombre de fonctionnaires, augmentation des heures de travail des enseignants, voire nouveau report de l'âge de départ à la retraite. Absurde pour Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste met en garde contre l'opposition entre le financement des hôpitaux et celui des canons. Imposer une cure d'austérité, ce serait selon lui pousser les Français vers le populisme défendu par Marine Le Pen ou Donald Trump. Une faute morale, ajoute David Corman. L'eurodéputé écologiste avance une alternative partagée, chose rare, par l'ensemble de la gauche. Faire peser l'effort de financement sur les citoyens et les entreprises les plus aisées. Une option fiscale d'ores et déjà rejetée par Emmanuel Macron.
Aurélien Devernois.
9 ans après l'ouverture d'une enquête, l'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, arrêté ce matin.
Visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, il a été interpellé à l'aéroport de Manille et placé en détention, accusé de crimes contre l'humanité par les organisations de défense des droits humains qui estiment que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées sous prétexte de lutte contre les stupéfiants.
Plongeons ce matin des bourses asiatiques. Alban, chute à Wall Street, le spectre d'une récession aux États-Unis inquiète les marchés.
Oui, mais pas Donald Trump, le président américain, qui parle d'une période de transition. Il n'écarte pas non plus l'idée d'imposer de nouveaux droits de douane, une stratégie claire avec aux manettes l'économiste Stephen Miran, Nicolas Feldman.
C'était il y a 2 semaines devant une commission gouvernementale. Stephen Miran, futur conseiller économique à la Maison-Blanche, dresse ses priorités.
Il est impératif de réindustrialiser l'Amérique. Cette politique doit faire des États-Unis le meilleur endroit au monde pour faire des affaires. Quiconque envisage de créer des emplois, d'ouvrir une usine ou d'innover doit penser que l'Amérique est l'endroit idéal pour le faire.
À l'image de Donald Trump, Stephen Miran est un parti des droits de douane qui doivent être utilisés, selon lui, comme une monnaie d'échange pour obtenir des concessions. Mais l'économiste préconise dans le même temps d'agir pour faire baisser le dollar et ainsi doper les exportations. Une vision économique difficile à lire pour les marchés. Nicolas Véron est chercheur au Peterson Institute for International Economics à Washington.
Aujourd'hui, on a une politique très erratique de la part de l'administration Trump. Il est impossible de prévoir ce que vont être les principales priorités de l'administration Trump. Il y a un risque de déstabilisation du système monétaire international inhérent à ces impulsions qu'il ne faut pas minimiser dans le contexte actuel.
Car dans le même temps, les prévisions économiques sont mauvaises aux États-Unis, le déficit commercial se creuse, la consommation des ménages faiblit quand la croissance, elle, pourrait chuter au premier trimestre.
Explication pour RFI de Nicolas Feldman.
Explosion, incendie, pollution, l'inquiétude ce matin en mer du Nord au large des côtes anglaises.
Après une collision hier entre un cargo portugais et un pétrolier américain victime d'une fuite de kérosène. Bonjour Emeline Vin.
Bonjour Alban, bonjour à tous.
Correspondante de RFI à Londres, une 30aine de personnes ont été secourues et contrairement à ce qui avait été annoncé, un membre d'équipage est porté disparu.
Oui, un membre de l'équipage du porte-conteneur Solong n'a pas été retrouvé et les secours ont arrêté les recherches dans la soirée. Alors hier, dans l'après-midi, les autorités avaient d'abord indiqué que la 30aine de personnes à bord des 2 navires avaient été ramenées à terre avec des blessures légères. Ce matin, les deux bateaux sont toujours en feu. Le pétrolier Stena Immaculate transportait du kérosène. Le Solong, lui, était chargé de cyanure de sodium explosif au contact de l'eau. Alors, il est encore trop tôt pour évaluer les dégâts avec certitude, mais les autorités et les ONG, dont Greenpeace, craignent des conséquences dévastatrices pour la faune et la flore locale dans cette région qui abrite de nombreux oiseaux maritimes, des phoques et des cétacés. Autre point à éclaircir, que s'est-il passé lundi matin? Plusieurs sources indiquent que le Solong a percuté le Stena Immaculate alors que celui-ci était quasiment à l'arrêt. Acte de malveillance, manque de vigilance lors de l'utilisation du pilotage automatique. Là, l'enquête pourrait prendre plusieurs mois.
Merci beaucoup Emeline Vin, en direct de Londres pour RFI.
Le mot a semé la panique dans le monde entier. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, l'Organisation mondiale de la santé qualifiait la propagation du coronavirus de pandémie.
Le Covid responsable d'au moins 7 millions de morts dans le monde selon l'OMS. On se souvient aussi des hôpitaux saturés, des confinements, des fermetures de magasins. Heureusement, il y a 2 ans, l'Organisation mondiale de la santé a levé le niveau d'alerte maximale. Bonjour Valérie Cohen.
Bonjour.
Néanmoins, le Covid, même s'il est devenu beaucoup moins meurtrier, eh bien, il n'a pas disparu, il est toujours là.
Oui, alors la surveillance est beaucoup allégée, donc il est difficile d'avoir des chiffres qui reflètent précisément la réalité. Je vous livre tout de même ceci. 11 000 cas de Covid en une semaine ont été rapportés à l'OMS récemment par une cinquantaine de pays et 500 décès hebdomadaires. En France, par exemple, où le suivi précis n'est qu'hivernal, on recense 5 600 décès associés au virus sur la saison 2023-2024. Le Covid continue de tuer donc, mais beaucoup moins que lors des premières vagues. Et cela, c'est parce qu'une immense part de la population mondiale est immunisée et protégée des formes graves grâce à la vaccination et ou des infections antérieures. Le variant qui circule depuis fin 2021, Omicron et ses soulignages, serait peut-être aussi, selon certains experts, moins virulent que les précédents. Le Covid reste toutefois dangereux pour les personnes âgées ou fragiles, immunodéprimées notamment, c'est-à-dire qui ont une faiblesse immunitaire. À noter un trait particulier du Covid par rapport à d'autres infections respiratoires comme la grippe. Le virus circule toute l'année avec des rebonds réguliers. Il ne semble pas avoir de saison spécifique.
Alors, vous avez parlé de la vaccination, Valérie, elle est toujours d'actualité en 2025?
Oui, elle est fortement recommandée pour les personnes vulnérables, donc les plus de 65 ans, celles atteintes de maladies chroniques ou immunodéprimées. En France, par exemple, elles sont incitées à se faire vacciner chaque année. Il faut rappeler que la vaccination, les campagnes massives à l'intention de tous, ont changé le cours de la pandémie. Des vaccins très efficaces contre les formes graves de Covid ont été mis au point en un temps record. Il y a notamment ceux utilisant la technologie innovante fondée sur l'ARN messager. Selon une étude de l'Imperial College de Londres, publiée dans une revue scientifique, 20 millions de vies ont été sauvées pour la seule année 2021 grâce au vaccin. Mais cela aurait été encore davantage s'ils avaient été disponibles partout et rapidement. Les pays à faible revenu y ont eu accès tardivement et partiellement. La pandémie a aussi jeté une lumière crue sur cette inégalité.
Merci Valérie Cohen.
On termine ce journal avec le football et les 8e retour de la Ligue des Champions aujourd'hui.
Avec 4 matchs au programme à 17h45 temps universel, Barcelone accueille le Benfica. À 20h TU, le Bayern se déplace sur la pelouse de Leverkusen. L'Inter Milan reçoit Feyenoord et le PSG affronte Liverpool. Les Parisiens qui vont tenter de prendre leur revanche après leur défaite 1-0 à l'aller. Cédric de Oliveira.
C'est un rituel lors de tous les matchs de Liverpool à domicile. 60 000 personnes qui s'égosillent à l'unisson sur le mythique You'll Never Walk Alone. Phil sera à Anfield et il est plutôt impatient.
Ah ouais, je vais crier très fort. Ce sera un jour bruyant. Anfield est un endroit très spécial où j'ai passé quelques-uns des meilleurs moments de ma vie. Je me sens vraiment chez moi.
Avec son public, Liverpool a ainsi renversé quelques situations ces dernières saisons en Ligue des Champions. Pour Neil Atkinson, qui anime le podcast The Anfield Wrap, le stade est précieux.
L'ambiance d'Anfield, elle arrive quand on l'appelle. Elle est là quand on en a besoin. Elle peut dépendre d'une décision arbitrale, d'un gros tacle, d'un grand moment. Anfield, ça fonctionne presque comme un organisme vivant qui réagit aux premières difficultés. Et Liverpool aura bien besoin d'Anfield contre le PSG.
Des Reds décevants à Paris la semaine dernière doivent valider leur qualification, alors qu'au PSG, on va visiblement tenter de se servir de cette ambiance si particulière, explique l'entraîneur Luis Enrique.
On sait que c'est un stade mythique d'Europe avec une histoire, et c'est une motivation pour nous, pour encore jouer un bon match avec une bonne équipe de Liverpool. et peut-être même gagner, pourquoi pas. C'est notre objectif, c'est ça notre motivation.
Très jeune, l'équipe parisienne devra prouver qu'elle est capable de résister à la pression d'Anfield si elle veut créer un exploit. Cédric de Oliveira, Liverpool, RFI.
Liverpool PSG, coup d'envoi à 20h, temps universel à suivre en direct et en intégralité sur RFI, soirée spéciale Ligue des Champions, rendez-vous à 19h40 TU.
Merci Alban Le Prince, et puis on y revient bien sûr dans le prochain journal des sports dans une demi-heure. C'était le journal sur RFI, 8h15 ici à Paris, tout de suite la revue de presse internationale. Une, Frédéric Couteau, panique à Wall Street.
Oui, les indices boursiers américains ont dévissé hier. Donald Trump avait promis monts et merveilles à la finance américaine, relève Libération à Paris. Le lundi 10 mars restera pourtant un jour maussade pour Wall Street après trois semaines déjà très compliquées. C'est même la pire journée depuis 2022 pour le Nasdaq, l'indice technologique de Wall Street, moins 4%. Le Dow Jones, lui, a perdu un peu plus de 2%. Et l'indice élargi S&P 500 s'est contracté à 2,7%. Alors pourquoi cette dégringolade. Réponse du quotidien Le Temps à Genève. Après les tergiversations de l'administration Trump sur les droits de douane la semaine dernière qui avaient déjà horripilé les marchés du monde entier, Donald Trump a donné avant-hier de nouvelles sueurs froides aux investisseurs lors d'une interview sur Fox News en qualifiant le moment présent de période de transition et en déclarant qu'il faudrait un peu de temps avant que les Américains ne voient les effets de sa politique. Et surtout, il a refusé d'exclure une récession. « Je déteste prédire ce genre de choses », a déclaré le Républicain, tout en suggérant que d'autres droits de douane pourraient encore être imposés ou augmentés.
Conséquence, pointe le Washington Post, la confiance des consommateurs s'effondre, les actions chutent et les risques de récession augmentent.
Y aura-t-il une récession Trump ? S'interroge pour sa part le Wall Street Journal. Il y a des signes que l'économie américaine ralentit, le marché de l'emploi se creuse, l'inflation est toujours bien présente et l'indice de confiance des consommateurs est en baisse. Même si l'économie échappe à la récession, tout cela laisse présager un ralentissement de la croissance, prévient le quotidien new-yorkais. Les déréglementations imposées par l'administration Trump et l'extension de la réforme fiscale de 2017 devraient stimuler les investissements des entreprises à long terme, mais les coûts plus élevés des droits de douane et l'incertitude que cela entraîne nuisent à l'économie. Si M. Trump veut calmer les craintes de récession, il serait sage, préconise le Wall Street Journal, qu'il mette en veilleuse ses projets d'augmentation des droits de douane.
À la une également, la rencontre aujourd'hui en Arabie Saoudite entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Kiev devrait proposer une trêve dans les airs et en mer avec Moscou, un cessez-le-feu partiel donc qualifié d'idée intéressante par Washington. On attend de voir la suite. Et pendant ce temps, pointe le Figaro, les Européens continuent de s'interroger. Comment compenser le désengagement américain et éviter que l'Ukraine ne se fasse écraser par l'ours russe avant même le début des discussions? Comment prendre le relais sur les livraisons d'armes, l'aide financière, le renseignement? À plus long terme, pourquoi continuer d'acheter du matériel américain avec de l'argent européen? Sur les questions de sécurité, estime le Figaro, les États européens doivent pouvoir s'affranchir des lourdeurs de Bruxelles. Un noyau dur, la France avec son positionnement singulier, l'Allemagne première puissance et la Pologne première armée de l'Union européenne. Ce noyau dur donc doit pouvoir entraîner derrière lui une coalition des volontés pour avancer et rallier d'autres pays en dehors de l'Union. Dans ce siècle du rapport de force, pointe encore le Figaro, la crédibilité sur les questions de sécurité est pour les Européens la condition du respect de leurs rivaux comme de leurs alliés, c'est la condition de leur survie.
Enfin, pour le soir à Bruxelles, l'arrêt de l'aide américaine serait problématique pour l'Ukraine, mais pas catastrophique.
Oui, car depuis 2022, la part de l'aide des États-Unis a baissé en proportion dans le total de l'aide militaire internationale, passant de 70% en 2022 à 55-60% en 2024, l'année dernière, donc une tendance qui s'accélère. Dans le même temps, poursuit le quotidien belge, l'Europe monte en puissance avec la fourniture d'1,5 million d'obus l'année dernière par la République tchèque et le développement à grande vitesse de l'industrie militaire ukrainienne. On estime qu'en l'espace d'un an, la proportion d'armes de fabrication ukrainienne est passée de 25 à 40% de l'ensemble de l'arsenal. Du reste, la guerre évolue, pointe encore le soir. 80% des destructions infligées à l'ennemi sont effectuées au moyen de drones massivement fabriqués en Ukraine, qui réduit peu à peu sa dépendance au matériel lourd américain, dont l'importance stratégique évidente en 2022 et 2023 est en train de décroître sur le champ de bataille. De quoi, conclut le soir, de quoi réduire un peu l'inquiétude.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale sur RFI. Merci à vous, Frédéric. Et justement, puisque l'on parle de la presse, mission possible, titre le quotidien sportif français L'Équipe ce matin. Tout est possible, en tout cas, tout va se jouer ce soir pour Paris face à Liverpool, huitième de finale retour de la Ligue des Champions. La semaine dernière, à l'aller, le PSG a bien joué, mais le PSG a perdu 1-0 dans les dernières minutes de jeu au Parc des Princes. Alors, il va falloir tout donner ce soir sur la pelouse de l'adversaire, mais les Reds aussi veulent se qualifier pour les quarts de finale. Et Mo Salah, discret la semaine passée, va peut-être se réveiller devant son public, l'Égyptien, chez lui, à Liverpool. Cédric de Oliveira est sur place. Reportage.
À la simple évocation de son nom, le visage de Phil s'est illuminé instantanément. Ce supporter quinquagénaire déborde d'admiration pour Mohamed Salah.
Absolument. Il y a des joueurs comme ça, c'est un privilège de les avoir, de les regarder. Il ne faut pas les perdre des yeux parce qu'ils sont capables, comme ça, sur un geste, de faire quelque chose de spécial avec le ballon.
Et il en a fait des choses spéciales, l'Égyptien, cette saison. 32 buts et 22 passes décisives alors que le mois de mars débute à peine. Bilan qui impressionne tout le monde et notamment son coéquipier Diogo Jota.
C'est exceptionnel. Je me demande si les gens n'ont pas arrêté de compter parce qu'il fait vraiment des choses incroyables. Il fait la différence. Évidemment, ça nous aide énormément. C'est bien d'avoir un joueur comme lui dans l'équipe.
Près de 8 ans après son arrivée, près de 400 matchs plus tard, Mo Salah est déjà entré dans l'histoire du club. Matt Addison est journaliste pour le site spécialisé Liverpool.com et selon lui, l'Égyptien a fait du chemin.
Quand il est arrivé, il était très individualiste. Il ne voulait que marquer des buts. Il a changé en tant que joueur. Je pense qu'il est moins égoïste. Il a aussi pris une dimension différente dans son propre pays, même sur le continent africain. C'est quelqu'un qui a plus de pression sur les épaules que la plupart des autres joueurs. Il a toujours eu à gérer ça.
À 32 ans, Salah semble désormais complètement épanoui à Liverpool, où il a trouvé un cadre idéal, comme l'explique Neil Atkinson, qui est présentateur du podcast The Anfield Wrap.
Salah a une identité complexe. Il y a sa foi, il y a sa nationalité, il y a son continent, mais il a construit beaucoup de choses et passé des moments en charnière de sa vie ici, comme la naissance de ses enfants. C'est un vrai Liverpooldien maintenant, et il a montré tant d'amour et de dévotion aux supporters. C'est un joueur de Liverpool parce qu'il aime désespérément le club.
Ça n'empêche pas la star de faire craindre le pire à ses supporters depuis plusieurs mois. En fin de contrat en juin prochain, Salah n'a toujours pas trouvé d'accord avec la direction des Reds pour prolonger. Interrogé par la télévision anglaise en janvier dernier, il a laissé planer le doute sur son avenir.
Et oui, il reste 6 mois. En tout cas, ce sont mes derniers mois. Il n'y a pas de progrès. On n'a pas avancé dans les négociations. On doit juste patienter et on verra.
Dans une ville où le visage de l'Égyptien a été reproduit sur plusieurs fresques, la question d'un départ terrifie les supporters des Reds. John ne veut pas y penser.
C'est le football. Parfois, tu perds ton joueur favori, mais ça nous briserait le cœur. Ça peut être très, très difficile. C'est un phénomène et il pourrait bien être le prochain Ballon d'Or.
Ce serait la consécration individuelle suprême pour Salah qui veut déjà terminer cette saison en fanfare, remporter la Première Ligue et pourquoi pas la Ligue des Champions. Cédric de Oliveira, Liverpool, RFI.
Liverpool-PSG, ce sera ce soir à 20h, temps universel à suivre en direct et en intégralité sur RFI à partir de 19h40 TU. Dans le même temps, l'Inter Milan défiera le Feyenoord de Rotterdam et puis duel 100% allemand aussi à la même heure entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. Un peu plus tôt dans la soirée, le Barça jouera contre le Benfica Lisbonne. Rendez-vous 17h45 TU pour ces huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. On continue de parler foot avec un autre événement ce mardi. Cette fois, ça se passe au tribunal et c'est aujourd'hui que ça démarre en Argentine, à San Isidro. Le procès sur la mort de Diego Maradona, la légende du foot décédé il y a 4 ans. Sur le banc des accusés, 7 professionnels de santé poursuivis pour homicide par négligence. Bonjour Théo Conscience.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Buenos Aires. Vous suivez évidemment pour nous ce procès. Il devrait durer plusieurs mois. 120 témoins vont se relayer à la barre pour tenter de faire toute la lumière sur la mort de Diego Maradona.
Oui, reconstituer les événements pour essayer de savoir qui prenait les décisions sur la santé de Diego Maradona, à quel point a-t-il été isolé de sa famille, et surtout pour répondre à cette question, la mort de l'idole argentine aurait-elle pu être évitée ? Oui, selon le parquet, qui poursuit les membres de son équipe médicale pour homicide simple avec dol éventuel, c'est-à-dire pour négligence volontaire dont il savait qu'elle pouvait entraîner la mort.
Alors Théo, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on sait à l'heure actuelle ?
Alors, ce que l'on sait, c'est que le 25 novembre 2020, Diego Maradona est retrouvé mort d'une crise cardio-respiratoire sur son lit médicalisé à Tigré, au nord de Buenos Aires. L'ancien capitaine de l'Albicéleste était en convalescence à domicile depuis 2 semaines, après une neurochirurgie pour un hématome à la tête. Il souffrait par ailleurs d'une série de pathologies liées à une vie d'excès, avec une cirrhose, des insuffisances rénales et cardiaques, des troubles neurologiques et des addictions à l'alcool et aux psychotropes.
Et donc, dans ce contexte, qu'est-ce qui est reproché concrètement à son équipe médicale ?
Eh bien, en 2021, un rapport d'expertise médicale accablant a estimé que Diego Maradona avait été, je cite, « abandonné à son sort par son équipe médicale, qui aurait commis une série d'improvisations, de fautes de gestion et de manquements ». Selon le rapport, le traitement que Diego Maradona recevait était inadéquat, déficient et imprudent et aurait provoqué une lente agonie. Fin de citation. Les membres de l'équipe médicale, composée entre autres d'un neurochirurgien, d'une psychiatre, d'un psychologue, d'un médecin clinique et d'infirmiers, se retranchent tous derrière leur spécialité et se renvoient la responsabilité les uns les autres.
Et ce procès s'ouvre dans quelle atmosphère en Argentine ?
Alors il y a beaucoup d'attentes ici en Argentine avant ce procès qui a été repoussé à plusieurs reprises. On se souvient encore du choc provoqué par sa mort et de ces dizaines de milliers de personnes inconsolables venues lui rendre un dernier hommage lors de la veillée funèbre à la Casa Rosada, le palais présidentiel. Plus de 4 ans après sa mort, Diego Maradona continue d'être omniprésent dans le cœur des Argentins et bien souvent sur leur corps aussi avec des tatouages. On le retrouve sur d'immenses fresques murales et bientôt son corps sera transféré dans un grand mausolée en construction au cœur de la capitale argentine.
Merci Théo Conscience à Buenos Aires où il est 4h26. Lors de notre question d'environnement sur RFI aujourd'hui, on s'intéresse à la géo-ingénierie, technique de plus en plus mise en avant pour faire face au changement climatique. Et derrière ces techniques, eh bien, des promoteurs bien souvent accusés de jouer aux apprentis sorciers avec le climat. Jeanne Richard, d'abord dites-nous, en quoi consiste la géo-ingénierie ?
Eh bien, ce sont toutes les techniques qui visent à modifier à grande échelle le climat de la planète pour la refroidir artificiellement. Cela va être par exemple la diffusion de particules de soufre très haut dans l'atmosphère. Et parce qu'elles ont un effet réfléchissant, elles vont renvoyer les rayons du soleil dans l'espace avant qu'ils ne viennent réchauffer la Terre. Un autre projet, c'était de remplacer la banquise qui a déjà fondu par une couche de petites billes en verre pour là aussi réfléchir les rayons et éviter le réchauffement de l'océan Arctique, un projet qui vient d'être abandonné.
Et des projets un peu fous, Jeanne, qui comportent des risques qui ne sont pas souvent bien compris et bien pris en compte.
Oui, prenez par exemple le soufre dans l'atmosphère. Les scientifiques pensent que cela peut provoquer des pluies acides, une pollution des sols et des eaux, avec des conséquences sur la santé, l'environnement, l'agriculture et donc sur notre alimentation. Les expériences réalisées avec les billes de verre, elles, ont contaminé la chaîne alimentaire locale, le plancton et les poissons. Et plus globalement, en jouant aux apprentis sorciers, on risque de détraquer tout le fonctionnement du climat planétaire, changer les vents, les grands courants marins, les pluies et leur répartition, et à la fin, provoquer de possibles catastrophes climatiques à l'autre bout de la planète. Marine de Guglielmo-Weber, chercheuse à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, alerte aussi sur un risque de conflit géopolitique. Exemple, la Chine utilise déjà massivement des techniques de modification de la météo. Elle provoque la pluie en diffusant des petites molécules d'argent dans l'air pour garantir ses besoins en eau, et ça n'est pas du goût de l'Inde, sa voisine.
La Chine ne fait pas ça uniquement sur son propre territoire, mais va aller faire ça sur le plateau tibétain, donc qui est déjà une région contestée sur le plan territorial, mais qui est en plus la source de la plupart des ressources hydriques indiennes. Et donc, certains responsables politiques indiens ont l'impression que, à cause de ces techniques, ils subissent plus d'inondations, ou au contraire, qu'ils subissent des sécheresses. Ça produit effectivement de la conflictualité.
Alors malgré tout, Jeanne, ces techniques de géo-ingénierie, on le vend en poupe.
Oui, c'est dû au lobbying très actif d'entreprises qui ont des intérêts financiers à développer la géo-ingénierie. La plupart sont aux États-Unis, elles sont soutenues par de grands philanthropes et riches businessmen, comme Bill Gates par exemple, car finalement la géo-ingénierie fait miroiter un monde où on pourrait continuer à exploiter et polluer et changer la planète ensuite pour nous arranger, mais sans s'attaquer aux causes réelles du changement climatique, alors qu'on qu'on connaît pourtant les solutions, réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Et on vous en parle chaque matin dans notre question d'environnement sur RFI. Merci à vous, Jeanne Richard, pour cette question d'environnement. On reste ensemble sur la Radio du Monde dans moins d'une minute. Le retour de l'information africaine, on se retrouve juste après à 8h42 pour le journal des sports. Antoine Grenier viendra nous parler football et les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions qui commence ce soir. Ensuite, vous entendrez le dernier épisode de notre série de reportages consacrée à la ville de Maïdougouri au Nigeria. Et puis, bien sûr, notre choix musical juste avant 9h, ce sera avec José Marinho. Restez à l'écoute d'RFI.
Ce mardi sur RFI,
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Peut-on encore célébrer la découverte de l'Amérique au XVe siècle par Christophe Colomb ? Le Mexique demande des excuses à son ancien colonisateur, l'Espagne. Le pays développe surtout une approche moins européenne de son passé.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU, sur RFI.